remercier les gens qui vous invitent. Ça fait déjà un certain nombre de fois que vous m'avez invité. Il faut croire que je ne vous ai pas fait trop fuir puisque ça recommence. Alors, je suis très heureux de commencer cette semaine biblique, même si dans mes références, je ne me rapporterai pas directement à la Bible et je prendrai d'autres textes. Mais pour commencer cette réflexion, je voudrais dire que à l'arrière-plan de tout ce que je voudrais vous dire, je pense à trois formes de résistance contemporaine, entre autres, il y en a tant. D'une part, celle qu'on voit dans le printemps des peuples dans le monde arabe, la manifestation d'une forme plus aiguë de la conscience et de la revendication de liberté. Et à certains égards, ce que je vois, ce que je lis, ce que j'écoute, me rappelle le travail que je faisais il y a... Donc ça me rappelle à bien des égards le travail que je faisais il y a déjà un certain nombre de dizaines d'années, maintenant ça fait dans les bientôt 30 ans, dans la résistance polonaise, lorsque j'étudiais le mouvement Solidarność. Une deuxième forme de résistance contemporaine, je la verrai dans celle du peuple japonais, où on apprend énormément de choses sur le comportement de ce peuple passablement éprouvé, vous le savez comme moi. Et enfin, ma troisième référence, ce sera à nos frères chrétiens d'Orient. Vous savez comme moi que ce n'est pas très commode, le moins qu'on puisse dire, d'être chrétien dans un certain nombre de pays d'Orient. Alors à l'arrière-plan donc, de toute ma réflexion, je pense donc à cela. Et alors pour éclairer cette réflexion sur la résistance, je prendrai quelques références. Là, je viens de donner des exemples, maintenant je prends quelques références. C'est bien évidemment la figure de Job, sur quoi, vous le savez, j'ai travaillé pas mal d'années. Pour moi, c'est un des livres majeurs. Là. Par parenthèse, je vous signale que ce n'est pas sur Job, mais ce sera sur Coëlette. Je dois travailler là à Chambéry, à la maison diocésaine, avec le docteur Fachler, on doit faire deux rencontres autour de Coëlette. Ça va se passer cela le 4 avril et le 23 mai. Bon, si ça vous dit de venir là-bas. Alors donc, là, c'est de la figure de Job. Une autre figure de résistance, je prends quelques références pour vous donner un peu, quadriller un petit peu le territoire auquel je me rapporte en essayant de réfléchir. C'est bien évidemment Antigone. Antigone qui est la figure majeure à travers toute la culture d'Occident et peut-être la plus grande que nous ait léguée le théâtre grec. La troisième référence que je prendrai, je l'emprunterai à un texte de Patočka, le dissident tchèque, l'ami de Václav Havel, et qui écrit dans son testament, enfin c'est un texte écrit quelques jours, peu de temps avant sa mort. Il venait d'être interrogé pendant une douzaine d'heures par la police, il était extrêmement faible, et il écrit quand même cette chose-là qui pour moi va au centre de la préoccupation morale. Lorsqu'il écrit ça, vous le retrouverez dans les essais hérétiques qui ont paru chez Verdier, c'est à la fin du livre. Il faut quelque chose de fondamentalement non technique, non instrumental uniquement. Il faut une éthique évidente par elle-même, non pas commandée par les circonstances, une morale inconditionnelle. La morale n'est pas là pour faire fonctionner la société, mais tout simplement pour que l'homme soit l'homme. Ce n'est pas l'homme qui définit un ordre moral selon l'arbitraire de ses besoins, de ses souhaits et tendances et désirs, mais c'est au contraire la moralité qui définit l'homme. On pourrait également aussi continuer, si vous voulez, se référer par exemple à Albert Camus, notamment tout le début de l'homme révolté avec la grande formule qui termine le premier chapitre, « Je me révolte, donc nous sommes ». Et enfin, j'en prendrai une dernière. Je l'emprunte alors celle-là à un passage d'un livre de celle qui fut avec qui on était lié d'amitié pendant 20 ans et plus, une Polonaise qui est décédée il y a un an et demi et qui avait fait 11 ans de goulag. Je prends un passage à la page. Ce livre elle, a été traduit en français en 2000, Une absurde cruauté. Pour le dire très simplement, je le tiens pour l'un des livres les plus remarquables écrits sur ce monde invraisemblable de l'univers bolchevique. Lorsque je me rappelle cette époque, écrit-elle, je constate à quel point l'attitude des Polonaises était étonnante. comment expliquer qu'elles arrivaient à si bien tenir le coup sans aucune aide matérielle, sans colis, et donc souffrant en permanence de la faim et de surcroît connaissant mal la langue russe. Ben, ce sont évidemment dans les camps soviétiques. Elles se débrouillaient tout en conservant quelque chose qui semble invraisemblable, leur dignité. Cela leur permettait de vivre et de garder la tête haute, malgré l'absence de repères, malgré leur timidité. Vous retrouverez ça, page 56. D'ailleurs, sur ce livre-là, je viens d'écrire un papier. On est en train de préparer avec une amie polonaise à Paris et trois autres en Pologne, là, un ouvrage sur cette femme qui a été une des grandes philosophes polonaises du XXe siècle.
Son nom,
Barbara Skarga. Il n'y a pas de quoi écrire. S-K-A.
Vous ne l'aviez pas dit.
S-K-A-R-G-A. Alors, si ça vous intéresse, je vous donne le texte de l'article que j'ai écrit pour ce livre collectif qu'on prépare et qui porte précisément sur le goulag. Si vous voulez faire votre copie, vous pouvez le faire. Alors, ces références étant données, question alors, pourquoi mettre un lien entre le fait d'exister et celui de résister ? Eh bien, tout simplement, si vous voulez, déjà, les textes que je viens de vous donner vous indiquent le chemin, la direction de ma réflexion, c'est que s'interroger sur la résistance est simplement se demander ce que veut dire exister ou vivre d'une manière humaine. Qu'est-ce que veut donc dire exister ? C'est pas simplement être dans la vie comme le sont les autres vivants, mais proprement, là, comme on le fait, si vous voulez, dans nombre d'ouvrages de philosophie, en soulignant le préfixe « ex » de « exister », comme une sortie de. C'est-à-dire que exister, c'est toujours se situer dans une certaine portion de monde où nous habitons en ce lieu et en ce temps-là, différent des autres. C'est une insertion également qui s'inscrit dans la continuité des jours, simplement les jours de la vie de chacun, mais qui n'existe que pour ce que celui qui établit dans ce lien même une distance. Et c'est là ce que je voudrais souligner, c'est que, au fond, il y a dans l'exister humain, comment le faisons-nous, comment vivons-nous d'une manière humaine, eh bien, à la fois, nous le faisons dans la continuité. Je suis celui que j'ai été jusqu'alors, je ne suis pas complètement différent, je suis le même, je me reconnais à travers les photos et mes amis me reconnaissent, mais en même temps, je m'inscris dans une distance ou dans une rupture avec ce qui a été jusqu'alors. Eh bien, c'est dans ce double mouvement de continuité et de distance que se dessine d'une part notre identité propre, je peux dire que je me reconnais comme les autres me reconnaissent, comme celui que je suis, et en même temps ce qui contribue à donner un sens ou du sens à cette succession de jours. C'est qu'en effet, si vous voulez, dans ce rapport-là de proximité-distance, dans cet exister humain, le souci primordial, c'est celui précisément de maintenir une communauté et en même temps habiter par le souci de dignité et du respect de la personne que je suis. Ce qui veut dire que, en fait, si nous essayons de comprendre comment nous vivons, comment nous existons, nous sommes au croisement d'une part du consentement à la condition. Si je ne consens pas à ma condition, ben je peux me situer n'importe où ailleurs, mais je n'arrive pas à vivre puisque je suis là et non pas ailleurs. Et en même temps du refus des limites, c'est-à-dire des limites de cette même condition à travers l'action, à travers les rêves, etc. Une remarque incidente, si vous voulez, à propos du rêve. J'entends, je parle ici du rêve éveillé et non pas du rêve de la nuit qui obéit à une autre logique, c'est autre chose, même si nous avons le même nom pour parler de la vie et du jour. Or, ce que je voudrais souligner, c'est que se rapporter aux rêves et nourrir des rêves pour sa propre vie, ce n'est pas nécessairement la fuir. C'est plus exactement l'ouvrir, et en l'ouvrant, par fait même, à des possibles, et en rendant ces possibles réalisables. Par contre, alors fuir dans le rêve, c'est effectivement tourner le dos à la réalité, ce n'est pas vivre, mais c'est se perdre dans les brumes d'une fantaisie déconnectée d'avec la réalité. Alors là, on pourrait examiner, étudier quantité de formes de cette fuite, c'est le comportement très généralement du mythomane, c'est le comportement de Don Quichotte, c'est celui de Tartarin, de Tarascon, ou différentes références, comme vous préférez, ou bien c'est encore celui d'Emma Bovary. Ainsi donc, alors, le rêve ici, rêve, je l'entends comme cette possibilité d'ouverture. Je rêve à des possibles, je rêve à d'autres moments de ma vie, à des choses que je pourrais faire, que je n'avais pas encore fait jusqu'à présent. Et par le fait même, je suis en train de refuser les limites qui me sont imparties et que, pour des raisons sociales, économiques, biologiques, etc., etc. Bon. Or, n'oublions pas que ce mouvement-là, ce double mouvement de consentement et de refus, ça a commencé dès les premiers temps de notre existence. C'est celui qui commence avec le moment où l'enfant est à... Excusez-moi. C'est le moment où l'enfant entre véritablement dans le monde des mots et se met à habiter le monde des mots. Et vous percevez qu'à ce moment-là, il marque son territoire, si on peut dire, lorsqu'il découvre le non distinct du oui. Alors là, pour les parents qui ont, disons, un peu d'oreille, ça se repère immédiatement, ce moment où il y a cette fameuse distance. En même temps, il dira oui à un nombre de choses, mais il faut marquer le nom pour marquer la distance. Ce que vous allez retrouver dans le comportement de l'adolescent, alors à un autre niveau, ce que vous allez retrouver dans le, d'une manière générale, dans toute forme de résistance. Or, qu'est-ce qu'il y a donc dans la résistance? Eh bien, il y a tout simplement un refus constant des contraintes et de la violence exercée par les contraintes. Et un refus, par le fait même, des conséquences de cette violence des contraintes, imposée par les contraintes, je veux dire la peur. Arrêtons-nous un instant, si vous voulez, sur la violence, parce que là nous avons quelque chose de capital pour comprendre l'expérience humaine. Je dirais que la violence, c'est le défi majeur dans la vie, et le défi majeur lancé à la vie, et d'une manière paradoxale, alors que c'est exactement la même racine. Vie et violence ont exactement la même racine, à très peu de choses près. Si je le dis en grec, je retrouve également la même chose. Bios, c'est la vie, et bia, c'est la violence. Nous avons donc là quelque chose qui est extrêmement intéressant à étudier. Enfin bon, ça c'est une autre... C'est un travail que je poursuis par ailleurs, là, de comprendre, si vous voulez, ce lien, cet entre-là de la vie et de la violence, comment essayer de s'y repérer. Prenons simplement quelques points de repère. Je dirais que la violence, c'est l'énergie qui est au centre même de la vie, mais l'énergie sauvage, c'est-à-dire l'énergie sans loi. Il y a violence à partir du moment où cette énergie de la vie ne reconnaît pas une loi extérieure qui le limite. Qui se retrouve dans tout impératif moral, je veux bien, je désire tout ce que vous voudrez, mais il y a un moment, une limite, je ne peux pas franchir cette limite, sinon je bascule dans la barbarie. C'est ce que rappelait, vous le citiez tout à l'heure, la référence que je faisais dans ce texte-là à Lévinas, lorsqu'il y a cette espèce de barrière du visage, je ne peux pas le frapper, là. Sinon je bascule dans la barbarie. C'est-à-dire que la violence, c'est donc cette espèce d'énergie intense et en même temps qui écrase cette possibilité que je suis. Parce que cette violence ne s'installe et elle ne dure que par la peur qu'elle suscite chez l'opprimé. Alors que ce soit dans la guerre militaire entre nations, entre clans, dans la concurrence économique, dans toutes les contraintes qui sont imposées de l'extérieur aux individus, contraintes des traditions, pensez à la condition des femmes, là, c'est pas la peine de le développer, vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est une façon d'inscrire même dans le vêtement de la femme, dans la conduite de la femme, etc., et tout, une démarche de peur qui, à ce moment-là, la paralyse de l'intérieur. Et alors, contraint de toutes les structures sociales, et dans l'espace religieux lui-même aussi, je crois qu'il ne faut pas nous faire d'illusions, et l'histoire est aussi assez édifiante, là. et entre autres pensait à une forme de pouvoir dans le religieux. Ça pourrait être étudié pour lui-même, examiné pour lui-même. Pensez entre autres à ce que notamment Bernanos a très bien scruté, a bien, très bien diagnostiqué, le pouvoir sur les âmes. Et c'est ça précisément le plus envoûtant et le plus terrible. Bon, enfin, bon, remarquez donc, je vous donne une série de sujets pour d'autres en grande possession. C'est comme ça. Il faut toujours laisser les petits cailloux derrière soi. C'est-à-dire qu'il y a une violence lorsque un pouvoir qui est nécessaire à la gestion de la communauté, à l'équipe de la communauté, lorsqu'il y a un pouvoir qui ne se reconnaît pas de limite. Or, comment commence la résistance? Eh bien, je dirais tout simplement la conjuration de la peur. Et là, je retrouvais en écoutant, en écoutant quantité de reportages, radio, télévision, dans ce fameux mouvement, je disais tout à l'heure, du printemps des peuples arabes. Il y avait une chose qui crevait les yeux sur les visages qu'on avait sur l'écran, c'était des gens qui n'avaient plus peur. Et là, ça me rappelait, je reviens, si vous voulez, à mon exemple de solidarité, là, avoir posé la question à tant de personnes différentes, je voulais avoir des réponses là-bas. Comment ça s'est passé ce mouvement-là, à quel moment il a coagulé? À partir du moment où il y avait deux choses, ils n'avaient plus peur, et ils se sont aperçus qu'ils étaient aussi nombreux. C'est donc à ce moment-là, la peur n'est plus là, à ce moment-là, des hommes sont libres et disponibles pour autre chose. C'est qu'en effet, si vous voulez, la peur, qu'est-ce que c'est? C'est cet sentiment de panique qui s'empare des êtres humains, qui envahit l'espace extérieur. Alors vous avez là, ça peut être la police, ça peut être l'armée, ça peut être tout ce que vous voulez, les catastrophes naturelles. Et en simplement soulignant ceci, lorsque la peur s'empare des individus, en quelque sorte, elle est paralysante. Je ne peux plus faire, puisque précisément j'ai peur, ne serait-ce que de sortir de chez moi. Est-ce qu'il n'y a pas un sbire qui m'attend au coin de la rue? Ça, je souligne, si vous voulez, l'aspect de l'emprise brutale. Ne soyons pas dupes, il y a d'autres formes d'emprise qui sont plus subtiles et qui ne sont pas moins réelles. Ce qu'on pourrait dire, si vous voulez, la dictature douce du conformisme. Là, on pourrait reprendre tout un certain nombre de textes de Tocqueville. N'oubliez pas, au début du 19e siècle, cet extraordinaire français, en analysant la société américaine, a vu ce qui était en train de se profiler et qui maintenant, alors, règne tellement dans nos sociétés dites démocratiques. C'est-à-dire que là, nous avons affaire à une espèce d'emprise qui n'est pas nécessairement brutale, celle de la coutume héritée, celle de l'emprise suggérée par les médias. Après tout, nous sommes tous invités à faire à la fois tous la même chose, et tous différents. C'est très curieux, si vous analysez un peu ce qui se véhicule à travers les médias, c'est « soyez vous-même ». Or, comment pouvez-vous être vous-même en faisant comme les autres? Alors, vous achetez la voiture machin, je ne sais plus, la dernière que j'ai vue à la publicité hier à la télévision, ces voitures intelligentes, vous savez, là maintenant, vous pouvez mettre dans la voiture et dormir tranquillement et vous arriverez à domicile. Mais je veux dire, si vous voulez, par là, cette espèce d'insinuation qui se glisse dans les individus et qui, d'abord, anesthésie la résistance. Si vous voulez dominer les hommes, trouvez le moyen d'une manière ou d'une autre d'anesthésier leur résistance par la drogue que vous voulez, et vous aboutissez à cela. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque je parle de paralysie ici, ça veut dire que l'individu perd simplement toute capacité d'initiative, il est incapable de décider par lui-même. Or, là, vous en avez donc quantité de ces formes, de ces dictatures plus ou moins douces, plus ou moins masquées. On pourrait en répertorier une autre, là, dans le monde du travail et des relations du travail, toutes les conduites et comportements de l'humiliation infligée. très intéressant, l'humiliation à examiner, je veux dire, pas à pratiquer. Très intéressant parce que vous apercevez qu'à ce moment, comment arrive-t-on à tuer l'énergie d'un être humain, tout simplement en le dévalorisant, en cassant l'image positive qu'il peut avoir, c'est-à-dire essentiellement en cassant la confiance qu'il peut avoir lui-même. Il ne peut plus s'estimer. Alors c'est à ce moment-là que nous apercevons, si vous voulez, opposant donc violence et résistance. Si la violence repose sur une certaine force, alors qui peut être encore une fois extrêmement différente et qui a quantité de forces, d'ailleurs, si l'on prend l'histoire des sociétés politiques, on s'aperçoit que les hommes ont inventé des quantités de moyens précisément dominer leurs semblables. C'est donc la force. La force est anonyme, la force est impersonnelle, la force est extérieure. Si je veux parler de résistance, il faut que je parle d'esprit. C'est l'esprit, c'est-à-dire que si la force est impersonnelle, la résistance, elle est de part en part esprit et un esprit. C'est-à-dire une certaine attitude de l'âme qui refuse de se soumettre sans comprendre pourquoi. Sans comprendre pourquoi elle le fait, pourquoi on lui demande. Si je me soumets à la loi de la communauté politique, par exemple à laquelle j'appartiens, je sais très bien que le citoyen doit respecter des lois et je ne me considère pas comme aliéné, comme asservi, etc. Bon, mais c'est pas de cela que je parle. Puisque là, il y a un consentement voulu, admis et délibéré. Or, ici, Parler d'esprit, c'est dire que, au fond, c'est à la fois une attitude de l'âme et une attitude de l'intelligence. Une attitude d'intelligence par le fait même n'admet pas, donc encore une fois, de se soumettre sans comprendre à quoi. Or, cet esprit en question ne peut se manifester que parce qu'il en appelle à un universel. Et c'est là que je retrouverai, si vous voulez, la justesse de la formule de Camus à quoi je faisais allusion en commençant. Je me révolte, donc nous sommes. Si c'est la révolte strictement individuelle, nous sommes dans l'ordre du caprice. L'enfant qui fait un caprice, bon, ben d'accord, il veut pas accepter ce qu'on lui impose, mais ça ne débouche pas plus loin puisqu'il ne sait dire que non, il ne sait pas dire oui. La véritable résistance, c'est celle qui dit non, mais ce non ouvre un oui. Et là, où il n'y a pas de oui, donc il n'y a pas de résistance possible. Or, quel est cet universel? Eh bien, il est au fond très simple, et nous le savons tous, vous aussi bien que moi. C'est tout simplement le respect de la personne humaine. C'est le sens de l'injonction du fameux « tu ne tueras point » qui remonte à si loin dans la mémoire de notre culture, c'est-à-dire ce « ne tuera point », vous repérez bien que sa formulation est négative. Tu ne peux pas tuer. D'ailleurs, on peut aussi élargir, si on veut faire société les uns avec les autres, il ne faut pas mentir, puisqu'il faut que la parole soit véridique et circule d'une manière véridique. Il y a donc une formulation négative, mais en fait, c'est le passage nécessaire à une affirmation proprement positive. C'est tout simplement ce respect de la dignité de la personne humaine. Et c'est ce que d'ailleurs l'allemand Kant met comme troisième grand impératif de la morale. C'est là, je dirais, nous avons affaire là à une des formules des plus profondes et des plus cohérentes d'une morale qui n'est pas particulièrement religieuse, ni rien semblable, encore qu'il y ait de larges rapports avec la morale de l'Évangile. Enfin, Kant était un bon luthérien. C'est le fameux respect de la personne humaine qui, comme dit Kant, n'a pas de prix parce qu'elle a une dignité. C'est des choses qui ont des prix, on peut vendre, acheter des choses si l'on veut. La personne humaine ne s'achète pas parce qu'elle a précisément une dignité. Alors, en fin de compte, qu'est-ce que c'est que la violence et qu'est-ce que c'est que résistance? Violence, c'est donc tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, nie la dignité de la personne humaine. quelles que soient ses formes, et Dieu sait si les hommes ont été capables d'en inventer. Que ce soit la violence brutale d'un pouvoir policier, d'un pouvoir politique, que ce soit l'exploitation économique, bon, vous savez cela aussi bien que moi, ou bien encore ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de dictature molle des conformismes que des gens peuvent diagnostiquer dans les textes de Tocqueville. En bref, si vous voulez, la dictature molle, c'est celle qui incite chacun à faire comme tout le monde. Je ne sais pas si vous connaissez la nouvelle d'Edgar Poe, l'homme des foules. C'est très court, enfin, Tocqueville est assez long, mais l'homme des foules, c'est très court. Edgar Poe avait une description extraordinaire de cet homme qui déambule dans une ville américaine et qui n'existe que parce qu'il est fondu dans la foule et qui n'a pas de consistance. C'est-à-dire que nous sommes passés de l'intimidation et de la paralysie au consentement. Les hommes consentent à être esclaves et à se comporter comme tels. Et alors, en fin de compte, et c'est par là que je voudrais terminer, c'est que parler de résistance, c'est bien évidemment relever le défi de la violence, la repérer, et en repérer différentes formes, c'est en conjurer l'emprise qu'elle a sur les hommes, cette emprise qui est toujours la même, c'est la peur, et ce, pour maintenir dans le présent cette ouverture qui est portée par l'espoir et l'espérance. Et c'est sur le terme de l'espérance que je voudrais terminer, qui pour moi est une des... dans le langage des catholiques, je ne sais si vous l'utilisez vous-même, une des vertus théologales. C'est pour moi d'ailleurs une des plus grandes, sinon la plus essentielle, plus encore que la foi. C'est précisément l'espérance qui d'ailleurs maintient l'adhésion en dépit de tout. C'est pour ça que j'ai tenu à donner comme sous-titre à mon travail sur Job la force d'espérance. Force est emprise ici, évidemment, au sens pas de la brutalité que je disais tout à l'heure. C'est qu'en effet, donc, cette espérance, qu'est-ce que c'est que l'espérance? Eh bien, c'est tout simplement ce sentiment d'une ouverture sur d'autres temps. Qu'est-ce qui fait la condition terrible et invivable du prisonnier, et du prisonnier, je veux dire, au sens des prisons, des camps, dans ce XXe siècle. Repensez donc à cette dérision terrible et cruelle qui était au-dessus du camp d'Auschwitz. Le travail rend libre. On faisait entrer des hommes en leur parlant de liberté et ils entraient derrière des barbelés. Puis la suite, évidemment, ce qu'il y avait après. Mais cette espérance, c'est ce qui maintient cette possibilité d'ouverture et que vous trouvez dans les plus grands des écrits, alors de manière très différente selon les auteurs, mais que vous retrouvez dans tous ceux qui ont survécu et qui ont maintenu, c'est que l'espérance n'a pas été écrasée. N'oubliez pas ce qui est dit au passage de la première porte de l'enfer dans Dante, vous qui passez ici, abandonnez toute espérance. Précisément, voilà ce que souhaite la domination sans faille. Voilà très exactement ce que refuse celui qui refuse de voir bafouer sa dignité. Mais alors, en même temps, si vous voulez, je maintiens ces deux éléments, espérance, ouverture du temps, mais on ne résiste jamais tout seul. Toute espérance est toujours solidaire, plus ou moins, ça dépend, il y en a deux, à trois, à plus, comme vous le voudrez, mais il y a toujours cette espèce, ce moment de la solidarité, au moins, si vous voulez, en attente et en appel. Je ne résiste jamais qu'en appelant à une solidarité avec d'autres, d'abord par primo, parce que tout banalement, ça me permet de mieux vivre cette résistance, et en même temps, parce qu'elle se conforte l'une l'autre. Eh bien, voilà deux ou trois choses que je tenais à vous dire sur le sujet que vous m'aviez proposé. Je n'ai pas voulu faire trop long parce que je préfère qu'on consacre beaucoup plus de temps à la conversation et qu'on reprécise des points. Voilà donc cette possibilité offerte.
Merci à François Cherpas de nous parler de choses compliquées d'une manière très simple. On a l'impression d'avoir presque tout compris. Voilà un moment de questions. Qui est-ce qui se lance? Alors, je précise que je vais me déplacer parce que si on n'entend pas les questions sur l'enregistrement, on ne comprend pas la réponse. pourrait suivre.
Il faudrait faire un geste pour faire un deuxième micro.
Oui, bonjour. Je me demande, en vous écoutant, alors, tu sais, il me semblait que les Japonais sont un peu conformistes, ils font tous pareil, enfin, c'est ce qu'on nous dit. Et comment ça se fait qu'ils tiennent si bien le coup?
Oui.
Voilà. Comment ça se fait que les Japonais tiennent si bien, résistent si bien, enfin, nous donnent cette impression, alors que, en général, on pense que les Japonais sont tous pareils, et puis très obéissants, etc.
Commençons par éviter l'illusion, l'illusion des lointains. Comme chacun sait, les Chinois et les Japonais se ressemblent tous parce qu'ils sont tous jaunes. Les nègres sont tous noirs. On ne dit pas pour les blancs, ben parce que précisément on se met à part. Alors là, bon, laissons ce genre de plaisanterie. Et venons-en, si vous voulez, à l'essentiel. Alors là, je crois qu'il faut... Il y a tout un tas de choses. Je ne suis pas spécialiste de la société japonaise ni de la culture japonaise, mais il y a quelque chose tout de même qui est très étonnant. C'est ce sens, d'une part, de la solidarité. Et nous sommes dans une solidarité, alors généralement, si vous voulez, avec inspiration bouddhiste, là, d'une part. Et d'autre part, c'est quelque chose qui est très ancien dans leur culture, d'un apprentissage de la maîtrise des éléments affectifs. Ce qui m'avait frappé il y a quelques années, je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque les Russes avaient abattu un avion de ligne sud-coréen. Pratiquement, évidemment, recevant une telle décharge, l'avion avait disparu. Et on avait vu des gens de Corée du Sud venir pleurer au bord de la mer. Et alors, c'est très intéressant de voir comment les Coréens sont très expansifs. Je dirais, à certains égards, ils sont un peu des méridionaux. Bon, prenez d'ailleurs la différence qu'il y a chez nous entre les gens du Midi et les gens du Nord. Et alors, les sont davantage expansifs, pleurant. Les hommes pleurent en Corée. Ici, ça ne se fait pas. Je vous rappelle par parenthèse qu'au XVIIIe siècle, en Florence, on pleurait beaucoup. Les hommes pleuraient. Ça, c'était en lisant notamment le roman de Jules ou la nouvelle Héloïse. Alors là, il y en a qui pleuraient à chaudes larmes. Bon, passons. Mais je veux dire, si vous voulez, que vous avez d'une part une espèce d'éducation, si vous voulez, à la contrainte des sentiments, à la non-expressivité. Alors c'est là que c'est bien connu, les brèves, d'une manière générale, parce que dans le détail c'est autre chose, mais l'éducation britannique impose davantage un contrôle de soi-même, plus que c'est par exemple les cultures méditerranéennes. Alors, d'une part, maintenant, il y a autre chose encore. N'oubliez pas qu'il faudrait y aller voir de près. Parce qu'on voit les grandes masses, là. Maintenant, si on y allait de près, qu'on allait discuter avec un tel et un tel qui vient de perdre sa famille, ou toute la famille, ou une partie, ça simplement, on trouverait autre chose, là. Là, je crois qu'il faut éviter l'espèce d'illusion, l'illusion du lointain qui nous donne ce sentiment-là.
Je voulais juste témoigner, mais je vais le faire fort. Nous avons un jeune japonais à la maison, et hier soir, pas plus tard qu'hier soir, on lui demandait un petit peu des nouvelles de sa famille, et il nous disait, il avait téléphoné à sa mère, qui lui a dit, mais écoute, ne t'inquiète pas, tu sais très bien, nous sommes tous des samouraïs. Donc, on va résister, on est tous des samouraïs, voilà. Bon.
C'était juste pour... Puisque le micro est là, je voulais juste faire une remarque. Moi, je trouve normal que quand on souffre, qu'on crie, qu'on pleure, je ne suis pas spécialement méditerranéenne, je me demande si cette espèce, ça ne nous arrange pas, que les Japonais surmontent bien, et je me demande si on n'est pas dans cette belle formule de la dictature douce du conformisme. Moi, je pense que les centrales nucléaires, c'est une aberration. Je pense que effectivement, il y a des résistances qui doivent être dites, et je pense qu'il faut faire attention. Moi, j'aime beaucoup cette formule, et je vais la ressortir sur la dictature douce du conformisme. Quelque part, il faut penser que tout est lisse, et tout est... c'est vrai que quand on a vu les images du tsunami, on ne savait plus si on était dans le film de Clint Eastwood ou dans la réalité. Hein, et quelque part, je crois qu'on est aussi... Il faut peut-être résister à des images et des discours qui sont à côté de la vie.
revenir sur ce point. Je répondais de manière rapide tout à l'heure, entre midi et nord. Bon, si j'avais à l'écrire, je le mettrais avec beaucoup plus de nuances. Entrant, si vous voulez, plus en détail. Je veux dire que, grosso modo, vous trouvez beaucoup plus, prenons l'exemple de l'Europe, vous trouvez beaucoup plus d'exemples disons, l'expansion des sentiments dans les peuples méditerranéens que dans les peuples nordiques. Ce qui ne veut pas dire que les peuples nordiques ne ressentent rien. Simplement, c'est que vous avez pour une foule de raisons d'éducation familiale, religieuse, etc. Vous avez d'un côté effectivement une exubérance qui revient. Effectivement, moi je suis dans l'entre-deux, comme dirait Brassens, je suis des Alpes un peu plus bas. Là. Effectivement, les premiers contacts avec les régions méridionales m'ont effectivement découvert beaucoup de choses parce que vous avez un type d'exubérance que vous n'avez pas ailleurs. Oui, c'est en fait comme ça. Je vous dirais que j'avais, par exemple, travaillé en Lyon, j'aimais bien un certain nombre d'étudiants africains qui avaient une exubérance que les Lyonnais qui sont plus froids n'avaient pas. Un étudiant africain là, ou un malgache sur le pont de l'université que j'empruntais tous les jours en allant travailler, de l'autre côté du pont, vous saluait ce qu'un Lyonnais n'aurait pas fait. Un Lyonnais, la presqu'île du boulevard des Belges. Là, c'est bien, faut bien situer. La Croix-Rousse, c'est autre chose. Non, mais c'est là que vous avez tout un tas de petites nuances. Alors, je ne veux pas en tirer des considérations sur comme on faisait à une certaine époque sur la psychologie des peuples. Ça, c'est des machins qui sont trop approximatifs. Mais alors, vous avez à la fois les traditions et de fait la culture. La culture samouraï qui a été, n'oubliez pas, enseignée au Japon de manière si intense jusqu'à la défaite, et puis ensuite les gens, il y en avait qui continuaient, a fait effectivement des fameux combattants qu'on ne trouvait pas sur les autres champs de bataille, c'est vrai. Alors vous avez des foules de nuances, que vous avez des Japonais capables de pleurer, ben tant mieux pour... D'ailleurs, il vaudrait mieux précisément pleurer. Je vous dirais, mesdames, effectivement, maintenant, ça ne se fait pas qu'un homme pleure dans nos sociétés maintenant. Il y a deux siècles, ça se faisait sans problème. Maintenant, ça ne se fait pas ou c'est pas très bien vu. Et c'est une ânerie monumentale parce que quand vous pleurez, vous déchargez un paquet d'émotions. Autrement, vous le verrouillez intérieur et puis, bon, enfin, on va pas si on continue comme ça.
Oui, je vais peut-être un petit peu provocateur, mais c'est pour vous pousser à approfondir un peu notre réflexion. Si je vous ai compris, la résistance fait partie fondamentalement de la vie humaine, hein, et de l'essence humaine. Et pour qu'on puisse résister, il faut qu'il y ait oppression. Donc faudrait-il en conclure que la domination et l'oppression sont nécessaires à la révélation de l'essence de l'humanité ?
Et qu'est-ce que ça pourrait être qu'une société ou qu'un état de l'humain sans oppression et sans domination à laquelle résister ? Est-ce qu'il n'y a pas une utopie ?
Alors, demander à ce qu'il n'y ait... À demander à ce qu'il n'y ait pas d'oppression, bon, on peut toujours rêver. Bon, ça existe comme ça. Mais l'oppression, attention, elle n'est jamais que relative. Alors effectivement, beaucoup plus repérable. Si je prends la domination policière, et quand vous examinez bien le fonctionnement des régimes policiers, que ce soit le nazi ou le soviétique, puis il y a d'autres qui ont pris des leçons, là. Alors on voit ce que c'était. Là, c'est de propos délibérés. Mais maintenant, il est archi évident et banal que prenez dans l'intérieur de la structure familiale, c'est pour ça que je vous prenais l'enfant et la adolescents, il est archi évident que de par leur stature, les parents aient une position supérieure à l'enfant. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui leur apprenne à parler, à habiter le langage, etc. Et alors ce qui fait qu'en un certain sens, si on ne fait pas attention, vous couvrez tout l'espace possible de votre enfant. Et comment va-t-il découvrir un espace propre ? Comment il commencera par vous dire non ? Bon, alors à ce moment-là, quand on dit non, discutons pourquoi, etc. Tout et tout. Mais je veux dire, c'est une donnée de fait, mais vous l'avez dans toutes les relations humaines. Mettez les relations d'amour, chaque fois qu'on parle d'amour fusionnel, ça me laisse toujours très rêveur. Parce que au bout de la fusion, il n'y a plus que un. En réalité, il y a un dominant et un dominé.
Alors, c'est-à-dire, si vous voulez, qu'il faut toujours maintenir cette fameuse distance. Et alors, peut-on rêver d'une société qui ne soit pas oppressive? Alors là, c'est un autre problème tout à fait passionnant que vous posez, celui précisément des utopies. Mais alors le mot utopie a prêté à tellement de contresens qu'il faut faire extrêmement attention. Je prends le mot utopie, moi, dans le sens de celui qui a forgé le mot avant qu'il n'existait pas, c'est Thomas More. Or, la société dont il nous parle d'utopie, enfin, pas littéralement de nulle part, c'est une société où l'homme n'est pas sous l'emprise du besoin. Lorsque Marx reparlera de cette fameuse du besoin après, Thomas More l'avait écrit bien avant lui. Il n'y a pas d'emprise du besoin et il n'y a pas de domination de l'homme sur l'homme. Et alors c'est là qu'au moment où Machiavel parlera de l'homme qui est un loup pour l'homme, c'est là que Thomas More écrira que dans la société d'utopie, l'homme est un frère pour l'homme. Alors, c'est là effectivement un espèce de très ancien rêve. Enfin bon, si un jour ça va venir de nouveaux sujets que nous propose.
On se donne rendez-vous.
Ou alors à ce moment-là, si vous voulez, pour vous permettre d'attendre, je vous renvoie. J'ai écrit un livre là-dessus. L'éditeur n'a pas voulu que je mette le titre Rêve d'utopie. Alors il a fallu bricoler, vous voulez le mot raison. J'ai mis raison et des raisons d'utopie. En réalité, c'est le rêve d'utopie que j'ai essayé de suivre depuis les premiers temps. On les situe très souvent à Athènes, c'est pas là qu'il faut regarder, il faut regarder du côté de Ninive et de Babylone. C'est dans le temps de la déportation qu'on voit le rêve commencer à apparaître, qui ensuite va parcourir tout notre Occident, le rêve d'une Jérusalem nouvelle. Bon, alors après on va prendre tous les détails, mais je veux dire, si vous voulez, là, qu'est-ce que c'est que ce rêve-là? C'est le rêve de la réconciliation. Il n'y a pas de despotisme, pas de domination. Alors, à partir de là, les mouvements révolutionnaires ont voulu être plus malins, et puis le résultat, et bien effectivement, on a supprimé la propriété privée et on a inventé le GPU. Tant qu'à faire, est-ce qu'il vaut mieux avoir des propriétaires terriens ou des espèces de moujiks, enfin, à peine cultivés, là, comme ça, qui avaient tout le pouvoir de vie et de mort? Alors, c'est là, si vous voulez, c'est très intéressant à étudier le moment, comment ce rêve, lorsque il n'est pas suffisamment maîtrisé, oublie que l'espace politique, comme l'espace humain, c'est l'espace des médiations. Il faut toujours des médiations entre les êtres humains. Là où il n'y en a plus, il y a de la violence et il y a de la domination. Et d'abord, cette médiation élémentaire, qui est celle que nous mettons en œuvre là maintenant, qui est le langage. Supprimer ça, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Une seule chose, le plus fort tape sur le plus faible et puis l'oblige à obéir. Et alors là, seulement dire que nous commençons à parler, ça veut dire qu'il faut nous expliquer. Vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Alors, on descend des arguments, mais alors bon, il y a la médiation juridique, la médiation morale, etc., etc., on peut en faire l'inventaire, mais vous voyez, je veux dire, si vous voulez, que là, reste au fond de notre imaginaire d'Occident, et là, ça a une force considérable, précisément d'une société qui ne soit pas dominatrice et brutale. Alors, à partir de là, maintenant, comment le réalise-t-on? Faut pas oublier, n'est-ce pas, qu'un beau jour, nos ancêtres, il y a certains qui ont pris la Bastille et d'autres qui ont institué la Terreur. Et ça, il y a parfois une espèce de conséquence absolument imparable. Enfin, ça, c'est encore, vous voyez, machin, si jamais vous êtes en manque de sous, on est parti jusqu'à l'an 2050.
Merci.
Je voulais savoir aussi si l'argent et l'espoir d'une carotte ne peut pas faire persister, faire cette anesthésie dont vous parliez tout à l'heure. En particulier, par exemple, l'espoir d'avoir du pétrole pour certains pays.
Mais bien sûr, et de surcroît, lorsque nous sommes entrés dans une société marchande généralisée. Les sociétés marchandes, c'est vieux comme le monde. Enfin, dès que les hommes sont sortis du lopin de terre là sur lequel ils travaillaient, qu'ils ont vendu un peu de leur bétail, etc., etc. Donc le commerce, c'est vieux comme le monde. Mais la caractéristique, si vous voulez, de notre époque, c'est pas que le commerce ait une place, c'est qu'il est ensuite envahi intégralement l'ensemble des activités humaines. Et tout devient commerçant. Tout autrement dit, tout se vend et s'achète. Il fut un temps, là, c'était les penseurs politiques et économistes anglais du 18e avaient imaginé que lorsque le commerce se développerait, ça ferait tomber les guerres. On a vu la suite. Alors c'est là, simplement, c'est qu'ils ont oublié une chose dans le détail, là, c'est précisément qu'il faut bien, avoir des sources de matières premières. Alors maintenant, si vous voulez, passons au temps présent, on est dans ce moment où nous sommes effectivement, où tout est achetable et tout monnayable. Regardez donc comment le vocabulaire de l'économie s'infiltre partout dans les expressions très courantes de la vie. Que vous gériez votre budget pour pas être, disons, n'avoir plus rien à manger à partir du 15 du mois, c'est banal. Mais regardez donc comment le terme « gérer » envahit tout maintenant. Vous gérez non pas votre budget, mais vous gérez vos amours. Moi, je me demande simplement comment, je ne comprends pas ce que c'est, ces machins-là. Vous gérez les amours, vous gérez les relations à l'intérieur de la famille, c'est-à-dire que nous essayons de passer sur le plan du monnayable. Or, dans le domaine de l'affection, j'ai rien à vous apprendre, là. Je ne peux pas vendre mon amour ni l'acheter. C'est précisément des êtres trop faibles, précisément, qui ont peur, veulent acheter les amours. Et le gamin qui vole de l'argent pour donner des bonbons à ses petits camarades pour précisément être cela. Mais c'est que nous sommes dans un type de système qui vicie toutes les relations humaines. D'ailleurs, pour être bien à l'aise, là, ça m'étonnerait que je m'attende à un pactole considérable en partant. Non, il faut toujours mettre de l'humour, ne l'oubliez pas.
C'est du domaine de l'utopie.
des rémunérations non matérielles.
En fait, je dirais que c'est la dignité de M. Sherpas qui nous intéresse, mais qu'elle n'a pas de prix. Est-ce qu'il y a une question? Vous avez vu qu'il a la réponse. Si vous avez les questions, M. Sherpas a les réponses.
C'est pas une forme de domination.
Cher Monsieur Sherpas, ce n'est pas une question, mais c'était par rapport justement à résister, et peut-être tout le contraire du questionnement de Monsieur tout à l'heure. Vous avez parlé de respect de l'autre. Alors moi, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée, et je pense que la relation humaine passe par le respect, même ce qui peut être une forme de résistance aussi, mais vous avez beaucoup employé ce terme, dites-nous en plus encore, sur le respect de l'autre.
C'était une forme de résistance, la dignité, mais le respect de
l'autre. Ah, mais si vous voulez, respecter l'autre, ça veut dire d'abord je résiste à mes propres pulsions et je casse la violence en moi. Je veux dire, prenons un exemple, si vous voulez, tout simple, nous ne sommes pas d'accord. À ce moment-là, un mouvement premier dans des sociétés de type patriarcal, je vous flanque une paire de claques. Pas n'importe comment, frapper quelqu'un au visage, c'est précisément de frapper dans la partie la plus intense de sa vie. C'est pas comme donner un coup de poing. Et alors là, se maintenir ce respect, ça veut dire je ne peux pas avoir de gestes agressifs. Je dirais, on sait très bien qu'il y a des femmes battues. Entendre les confessions de femmes battues, ça m'est arrivé, c'est quelque chose d'extrêmement émouvant. D'ailleurs, c'est là qu'on s'aperçoit comment les hommes frappent de manière très sélective. On ne tape pas n'importe où. Si on tape sur le visage, ça se voit, il faut pas taper sur le visage. Enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est au fond que le simple fait de lever la main sur un autre, sur un enfant, sur n'importe qui, c'est déjà l'humilier. C'est pour ça, alors, effectivement, que je n'ai pas été capable de frapper mes propres enfants. Là, c'est des choses de l'impossible, parce qu'il y a cette espèce de limite que je ne dois pas franchir. Et au fond, quand nous parlons de morale, nous le formulons généralement sous forme d'interdit. Bon, c'est une forme négative, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais l'interdit désigne quoi ? Désigne une ligne qui n'a pas à être franchie. Je ne peux pas franchir une ligne au sens que, par exemple, je ne peux pas entrer dans votre appartement si vous ne m'y invitez pas. Si j'entre sans que vous m'invitiez, c'est un acte de guerre. Comme franchir une frontière sans y être invité. Et alors là, il y a toute cette espèce de jeu, alors on revient sur les médiations, toute cette espèce de jeu de passage intermédiaire et direct, ce qui nous permet de maintenir la paix. Enfin, lorsqu'on vit dans certaines formes de rêve naïf, là, on s'imagine donc c'est dans l'enthousiasme, la fusion et tout et tout. Non, l'enthousiasme et la fusion sont dangereux. Que ce soit la fusion à deux ou la fusion dans une foule, c'est toujours très dangereux cette affaire-là, parce qu'on oublie qu'il y a cette limite. Et alors, ben, le respect, je dirais, c'est le béaba, quoi. Je ne vois pas comment le dire autrement, parce que, rappelez-vous, il y a un épisode à Arthès, c'est quelque part, est-ce que c'est dans l'archipel du Goulag, je ne me souviens plus, quand Solzhenitsyn nous raconte qu'il est sur le front. Il est à ce moment-là officier de l'armée soviétique. Alors, c'était dans le moment d'hiver, il faisait froid. Et alors, comme les officiers avaient droit à une casemate enterrée, il y avait des plantons qui montaient la garde à l'extérieur, qui se gelaient. Il sort à un moment donné, et un soldat qui était là se plaint. Et il lui flanque un coup de poing. Et à ce moment-là, si vous... Je ne sais pas où ça se trouve, ce passage-là, il faudrait rechercher. Et là, vous avez une espèce de basculement considérable, je dirais, brusquement, Solzhenitsyn devient Solzhenitsyn. Il a honte d'avoir fait cela. À ce moment-là, ben, il s'excuse et tout, et à ce moment-là, vous avez tout le chemin inverse. Mais le comportement est ordinaire de l'officier soviétique, le planton n'est pas content, et bien effectivement, on le frappe, c'est banal. Ça, dans l'Amérique, c'est des choses tout à fait courantes. Mais alors, c'est là, il y a du non-limite, c'est d'ailleurs, inversement, dites-le de manière, si vous voulez, plus positive, ce sont toutes les règles de politesse et d'invitation. Je vous invite à venir. Alors, on vient de passer à table, c'est un des lieux toujours tellement importants des rencontres humaines. Inviter à partager le repas, c'est d'emblée, d'entrée de jeu, signer un acte de paix. Parce qu'il est sous-entendu que le plat n'est pas empoisonné. C'est pour ça que tous les despotes ont besoin de goûteurs. Si vous voulez être despote, méfiez-vous de votre garde du corps. Il y en a encore un qui a tué un homme au Pakistan il n'y a pas longtemps. Et méfiez-vous de votre cuisinier. Le cuisinier a un pouvoir terrible. Alors, voyez ce qu'il fait. Des exemples qui paraissent anecdotiques, simplement pour essayer de faire repérer ce qui est le vivre avec d'une manière pacifique. Maintenant, comme chacun sait, c'est toujours difficile parce qu'on a des moments, des moments tout ce qu'on veut. Mais contrairement à ce que dit votre époux, je n'ai pas réponse à tout.
On a encore juste la place pour une question.
Oui, j'arrive.
Oui, vous avez parlé de résistance collective. Effectivement, je crois que c'est là les solutions du problème des questions de notre monde aujourd'hui. Si on peut dire que la résistance, ou tout au moins l'aspect plutôt spirituel de la résistance, l'aspect spirituel et biblique, dans l'aspect biblique, il y a veiller et prier, donc il y aurait peut-être un peu moins d'action, mais on peut penser quand même que la méditation, la prière, elle forme l'action. Et évidemment, quand on pense à résistance, on pense à action. Évidemment, résister, c'est agir, c'est... quand on voit les résistants d'Aiglières, vous avez intitulé votre échange « Résistance ». Résister, c'est exister. Donc la question existentielle, pour les résistants, c'était survivre. Et c'est résister, vivre pour... résister, vivre pour libre, et non pas mourir. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on peut penser que la question est plus collective qu'individuelle. Évidemment, la démarche est individuelle au niveau spirituel. Elle forme le citoyen, elle fait la méditation, la médiation par rapport à la relation avec les autres. Mais est-ce qu'on peut pas dire aujourd'hui qu'évidemment, dans des formes de résistance aujourd'hui, devant un monde qui devient complexe, il y a aussi des questions de s'organiser collectivement, et que la résistance, elle doit être collective, et qu'il y a des nouvelles formes aujourd'hui qui doivent être au niveau des institutions pour aider justement, parce que avec tous les phénomènes de mass média, télévision et tout, tout ça, ça nous individualise très fortement. Et je crois qu'il y a une question du point de vue pour favoriser justement que les citoyens puissent s'organiser. Et qu'on ne peut pas penser que la démocratie se résume uniquement à la votation dans les urnes, vous voyez, et qu'aujourd'hui on peut constater quand même il y a un éclatement des pensées, il y a un éclatement, il y a des mouvements un peu extrémistes, et puis il y a une comment dirais-je, par rapport à la votation, vous voyez, une non-participation à la vie de la citoyenneté. Donc la résistance, elle est là, quoi. La résistance, elle est de s'intéresser à la vie de la société, de la cité. Et pour moi, résister, c'est aimer. Et donc aimer, c'est participer à la vie collective. Et il faut qu'il y ait des nouvelles formes collectives qui puissent aider, parce qu'on ne peut pas avoir qu'une démarche individuelle, c'est-à-dire peut-être plus spirituelle, plus, vous voyez. Et donc, il faut qu'il y ait de nouvelles formes collectives pour que la société puisse marche mieux, voilà, pour que les citoyens puissent mieux s'organiser.
Oui, alors c'est là que vous avez c'est là que vous avez les deux éléments. Quand vous rencontrez des résistantes pour une cause ou une autre, peu importe, et qui vous parlent du moment du point de départ, c'est un acte qu'ils ont posé. Et un beau jour, ils sont aperçus qu'ils n'étaient pas seuls. S'ils voient tant de faire une espèce de consensus pour faire un acte de résistance, ça ne viendra jamais. Et alors c'est pour ça que je vous citais, je crois, tout à l'heure, là, cette chose que j'avais appris, là, de quantité de ceux qui étaient sur place en Pologne à ce moment-là, et notamment c'était à l'occasion de la première visite de Jean-Paul II dans son pays. Et un ami de Cracovie qui m'a expliqué, il savait bien évidemment qu'il résistait, mais il ne savait pas qu'ils étaient aussi nombreux. Sur la grande place en question, mais c'était noir de monde, ça devait faire, j'en sais rien, 500 000 ou 1 million de personnes, il y a ce sentiment de l'appartenance à une communauté. Et en même temps, mais je crois que là je voudrais revenir sur l'autre point, c'est que, et notamment si vous voulez, pour cette forme de séduction indolore ou de séduction douce qui passe à travers les médias, le type d'échange économique que nous avons, c'est là que vous avez le passage par l'éducation. Il faut apprendre sans arrêt, il faut sans arrêt apprendre à résister, tout simplement comme il faut sans arrêt apprendre à vivre. Et là, la formation de l'être humain est sans arrêt à recommencer, parce que tout simplement à éviter de se laisser prendre par n'importe quelle sirène. Quand je vois ces passes dans le bus et je vois quantité de gens avec ces fameux trucs dans les oreilles, qui s'écoutent, je ne sais pas trop quoi. Bon. S'ils écoutaient du Bach, ce ne serait peut-être pas si mal, mais ça m'étonnerait. Le machin, mais avec, vous avez une telle fascination. En face de quoi vous êtes? Mais vous êtes en face d'individus enfermés dans leur monde. Comment peuvent-ils rejoindre un monde commun qui serait, par exemple, une salle de classe où on travaille ensemble? Là, bon, moi, j'enseigne plus là maintenant, mais c'est un problème que je poserai là inévitablement. Et c'est là que vous avez cette espèce d'éducation. On laisse des choses à l'entrée, on débranche tous les appareils et tout ce que vous voudrez pour pouvoir faire ce monde commun. Enfin, ce sont quelques pistes.
Merci François Chirpaz. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors j'aurais quelques petites annonces à vous faire avant que vous passiez au dessert café, ce qui est important, mais je voudrais redonner la parole un petit moment à François Chirpaz pour qu'il vous parle de ses livres.
Bon, alors comme on n'est jamais bien servi que par soi-même et que je n'ai pas le support des grands médias, je vous signale deux ouvrages qui ont paru là un peu avant l'été dernier. C'est le deuxième recueil de nouvelles de ma femme. J'ai enfin trouvé un éditeur là, chez l'Armatan. Le titre « L'envoi ne s'entend pas ». C'est une formule d'un des psaumes qui était une de ses lectures favorites. Et là, vous avez un recueil de nouvelles.
De Janine Chirpaz,
oui, voilà. C'est dans toutes les bonnes librairies, les autres, évidemment, n'en parlons pas. Et enfin, j'ai publié aussi à ce même éditeur, à ce moment-là, un recueil de un recueil d'essais, d'articles, moi je ne fais pas dans la littérature, c'est ma femme qui était écrivain, sous le titre « Dire le tragique et autres essais » autour des problèmes de l'existence, etc. Enfin, c'est sur quoi je n'arrête pas de travailler depuis pas mal de temps. Voilà, donc il faut toujours acheter la bonne littérature et pas l'autre.
Merci beaucoup, Monsieur Cherpas. Alors, merci à vous aussi d'être venu. C'est vous qui faites le succès de ces études bibliques avec nos conférenciers. Tout de suite parler de la conférence. Monsieur Cherpas a accepté qu'elle soit enregistrée. J'espère que l'enregistrement a bien marché. Elle sera mise sur le site internet de l'Église réformée, donc www.erf-annecy.org, mais c'est facile à trouver. Mais ça ne sera qu'en milieu de semaine prochaine, parce que celui qui s'occupe de ça fort bien est en soin cette semaine et il pourra faire ça qu'en début de semaine prochaine. Autre chose, Monsieur Cherpas nous a donné son article sous forme copie. C'est compliqué de faire des photocopies tout de suite à l'instant. Ça sera mis sur le site. Et ceux qui n'ont pas Internet, puisque là aussi il y a une ségrégation, je vous demande de vous manifester auprès de moi et quand j'aurai le nombre, je ferai faire des photocopies et je vous les donnerai. Voilà. Enfin, vous avez vu derrière nous le tableau. Chaque année, à chaque semaine thématique, nous avons Jean-Yves Gonzalez, un membre de notre communauté, qui illustre le sujet de cette semaine par un tableau. Et donc j'ai découvert vendredi soir ce tableau, qu'on voit mieux aujourd'hui qu'hier au culte, parce qu'il est mieux éclairé. On voit bien qu'il est mieux avec de la couleur qui explose au milieu. La semaine, il y a quelques petites modifications. Donc demain, c'est bien monsieur le docteur Albert Fachler qui vient, président de la communauté juive de Chambéry, et qui nous parlera donc de l'Akeda, du combat de Jacob et d'Esther. Mercredi est un changement. Le père Dominique Joly a eu un deuil dans sa famille. Il a été obligé de partir à La Réunion ou à la Guadeloupe. Donc il ne peut pas faire l'aller-retour d'ici mercredi, bien entendu. Et donc, il m'avait gentiment donné son texte puisqu'on l'avait préparé, mais j'ai un peu scrupule à parler en tant que protestant devant une assemblée où nous avons beaucoup d'amis catholiques. Et donc, j'ai osé demander au père Marcellini, un peu au dernier moment, de soutenir ce sujet. Et il a accepté, donc je lui ai donné nos notes. Et puis, donc mercredi, c'est le père Marcellini qui parlera sur « résister » ou le combat du sens avec Job. Vous savez que c'est un sujet qui nous intéresse. Jeudi, c'est le pasteur Steve Nils, pasteur de l'église Abba, et qui est maintenant le nouveau président de l'Alliance protestante et évangélique annécienne, qui réunit les 8 églises protestantes, qui parlera de Moïse et des Hébreux. Et vendredi, c'est la pasteur Anne Fessandier, qui vient de Lyon, nous parler de Apocalypse 12 et 13, la résistance, un combat gagné d'avance avec Christ. Mercredi soir, nous avons le général Jean-René Bachelet qui vient faire une conférence au Temple à 20h sur résistance au singulier avec une majuscule, virgule, résistance avec une minuscule et pas de et un S à la fin, au pluriel. Quels enseignements pour notre temps ? Voilà. Et puis, bien sûr, dimanche, il y aura un culte de clôture avec le pasteur Bernard Rohrdorff. Voilà, je vous remercie, je crois que je n'ai rien oublié. Merci aux femmes qui font le succès de ces études bibliques en faisant de la cuisine. Chaque année, je suis admiratif parce que non seulement nous mangeons bien, mais il y a toujours assez. C'est un peu comme la multiplication des pains parce qu'on ne sait pas exactement combien on va être. Et donc, je suis assez admiratif de la... Je n'ose pas employer le mot gestion maintenant après ce qu'elle dit. Il faudra que je revoie mon vocabulaire. Merci à tous et à plus tard dans la semaine, je l'espère. Voilà.
est-ce que vous pouvez m'en inscrire pour photocopie, parce que j'ai mon internet qui est en panne actuellement.
D'accord.
Bon, j'en ai au moins pour bien une semaine. Si je...